Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h50, les grands débats qui ont démarré, vous le savez, bien sûr, avec Françoise Degout et Elisabeth Lévy, ça ne peut que démarrer hors antenne. Et vos appels, 0826-300-300, on va revenir peut-être sur cette primaire de la gauche, Patrick.
Oui, absolument, avec une question que l'on posait tôt ce matin sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une bonne stratégie d'essayer d'avoir cette ouverture à une primaire de la gauche? Là, c'était... Qu'est-ce que...
Eh bien, écoutez, c'était très non au début de la matinale. Pour l'instant, c'est non à 59%.
Voilà, non à 59%.
C'est encore bon, très non, hein.
Oui, ouais, enfin, ouais, c'était massif tout à l'heure.
C'est pas 80-90% dans un sens ou dans un autre.
Idée,
bon,
ça,
c'était une bonne idée, alors
ouais,
François Degout.
C'était une bonne idée, ça arrive un peu tard, mais moi je pense que c'était une bonne idée. Mais le problème, c'est l'art de l'exécution. Une campagne présidentielle, c'est pas tant les idées, alors c'est les idées et c'est l'art de l'exécution. Bah, ouais. C'est là que l'art de l'exécution d'Anne Hidalgo nous laisse un peu pantois. Moi, je redis que j'apprécie beaucoup Anne Hidalgo, je suis une des rares, mais moi j'aime beaucoup cette femme, je trouve qu'elle est claire dans ce qu'elle dit, etc. Mais c'est son art de l'exécution qui est compliqué.
Vous avez remarqué que je garde mon calme.
Oui, bah, j'ai vu. Je te remercie.
De la terminer, quoi.
C'est son art de l'exécution. Quand vous faites ça, quand c'est aussi solennel et aussi coup de théâtre, c'est-à-dire vous allez dans le plus grand journal, le 20h de TF1, c'est le journal le plus écouté en Europe. Ça veut dire que vous avez bordé ça, que vous avez bordé ça avec vos alliés. Je vais proposer une primaire et derrière, il faut qu'il y ait le communiqué qui tombe en disant « Ok, je marche ». Vous n'y allez pas sur un coup de tête, émotionnellement, en essayant de tordre le bras en
Elle
disant…
Elle n'avait prévenu personne.
Et je pense que, je suis sûr même qu'elle avait prévenu personne, et que finalement, le retour derrière est très violent. Et c'est très violent, parce que vous avez Julien Bayou qui dit non, tout le monde qui ferme la porte. Donc, mais l'idée eût été belle, car je pense que ce matin, si ça avait fonctionné, la gauche a été dans une dynamique de la même manière que la droite.
Oui,
malheureusement, elle va regarder
Elisabeth
passer
Lévy.
Le train.
Elisabeth Lévy, avant des appels d'auditeurs 0826-300-300, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à appeler, hein, bien sûr, sur ce sujet, ou d'autres qui vous interpellent dans l'actualité ce matin.
Non, bah moi, je pense qu'il y a deux problèmes.
Il y a Anne Hidalgo. Ah, bah si, avec deux problèmes.
Non, mais dans cette affaire, j'ai écouté la chronique de Françoise avec beaucoup d'intérêt, bien que n'étant pas d'accord. Ouais. Comme chaque semaine, d'ailleurs, ma chère Françoise. Et il y a deux problèmes qui sont Anne Hidalgo. Et là, blague à part, si vous voulez, je pense qu'Anne Hidalgo s'est disqualifiée par sa gestion de Paris. Écoutez, regardez Paris, demandez aux Parisiens. Saccage Paris a fait un malheur. Hein, le mot d'ordre, saccage Paris. La vie à Paris est devenue un enfer, si vous voulez, parce qu'elle a une espèce de vision, en fait, de techno-bobo. Je veux dire, elle a une vision qui n'est pas
d'accord.
Dans le... Ah, non, mais je finis. Pardon, je t'ai laissé parler, je finis.
Oui,
merci.
Et la ville qui pourrait être placée sous tutelle, hein, aussi, en raison de son endettement.
En plus, la ville la plus endettée, la plus sale de France.
Bon. Sale, je sais pas, il y a d'autres villes, mais bon, allez-y, oui. Deuxième.
La plus endettée,
pardon, Françoise, merci. La deuxième chose qui me paraît aussi, c'est qu'est-ce que veut dire le signifiant gauche aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie? Et ça, tant qu'il n'y aura pas un travail, je ne dis pas qu'il ne faut pas une gauche, peut-être que le clivage droite-gauche n'est plus le bon, et peut-être que dans le fond ça se recompose autour de la question de la mondialisation, autour de la question de la nation. Si vous voulez, moi je pense depuis très longtemps que la gauche, ayant abandonné à la fois la nation et les classes populaires, elle n'a plus vraiment de rôle à jouer. Mais la laïcité, n'oublions pas. Et ça, je suis tout à fait prête à entendre que je me trompe, ou surtout à entendre qu'il y aura un changement, que des gens comme Françoise Degout vont se retrousser les manches et réfléchir
il y en a beaucoup
sur
de
le
gens
plan.
Comme
non,
oui,
mais
je suis désolée.
Elle est éditorialiste, ouais. Elle n'est pas politique. Mais bon.
Non, je parle de travail intellectuel.
Ouais,
parce qu'avant de faire du travail politique, il faut faire un travail idéologique qui n'a pas été fait.
Ouais.
Je ne dis pas du tout. Alors,
il est fait par Mélenchon.
Il a été fait par Mélenchon
dans un
sens destructeur, à mon avis, car Mélenchon a adopté le multiculturalisme, si vous voulez, pour des raisons purement électorales. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de réflexion sur juste une chose, sur pourquoi les classes populaires ont abandonné la gauche, pourquoi elles ne votent plus, elles votent plus à gauche. Donc, tant qu'il n'y aura pas ça, vous pouvez toujours, si vous voulez, agiter des jolis mots, ça ne servira à rien.
Allez, on va poursuivre. Et 0826-300-300, en ligne avec nous. Qui est en ligne ce matin?
C'est Pierre.
Bonjour Pierre de Toulouse. Oui.
Écoutez, je trouve que vos deux intervenantes de choix vont être très réactives à ma réaction. Moi, je crois que je n'ai jamais cru au miracle et certainement pas à l'union des égaux. Je crois que la gauche comme la droite, ce sont des partis traditionnels qui sont en train d'inventer les additions négatives. Plus les partis se rassembleront, plus ils perdront des points. Et vous voyez, pour être plus sérieux, je dirais que depuis 2017, nous abordons une nouvelle ère. Autant en 1789, de 1789 à 1905, on avait une opposition entre les royalistes et les révolutionnaires. À partir de 1905 et jusqu'en 2017, il y a une opposition entre les capitalistes et les socialistes. Et aujourd'hui, il y a une opposition entre les mondialistes représentés par M. Macron et les humanistes. Malheureusement, pour le moment, pour ce qui est des humanistes, je ne connais qu'un seul candidat qui soit humaniste. Pour ce qui est de la droite et la gauche, et de l'extrême droite et de l'extrême gauche, il n'y a pas d'humaniste encore.
Pas assez.
Ah bah, Jean-Luc Mélenchon, le discours de dimanche, c'est un discours merveilleusement humaniste, là, vous pouvez pas le nier, c'est pas possible. Non, mais... Même les macronistes l'ont salué, ce discours. Enfin, les macronistes
certains.
De bonne foi.
On peut avoir un discours, mais le comportement
Bonjour le comportement d'Emmanuel Macron, alors là, dites donc, ça c'est l'humanisme et la bienveillance incarnée, là. Vous allez demander ça à 80% des Français, vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre.
Mais c'est pas ce que disait Pierre.
Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a une opposition entre les mondialistes représentés par M. Macron et les humanistes. Et en effet, M. Macron est un mondialiste. Il n'est pas un humaniste. Et c'est toute la différence. Et ce qu'il faudrait trouver, c'est vraiment trouver un homme humaniste qui ne soit pas uniquement avec des discours, puisque M., comme vous le dites, M. Mélenchon n'a que des discours, parce qu'après, quand on le regarde dans son comportement, et d'ailleurs, toutes ces personnes qui travaillent avec lui, ils l'ont dit, il n'est pas très sympathique, c'est un type qui est quand même assez sûr de lui, et qui, derrière, écoute plus ce qu'il raconte que d'écouter plus ou moins les idées que pourraient apporter d'autres personnes.
Ouais, c'est ça, un homme ou une femme, hein, mon cher Pierre. Allez, on marque une petite pause, et vous continuez d'appeler 0826-300-300 sur ce sujet, justement. Est-ce que vous voyez quelqu'un, vous, à gauche, qui pourrait porter, en fait, les valeurs et
Taubira. Mais moi, Taubira. Je suis comme Elisabeth, je lève les yeux aussi. Je dis à Christiane Taubira, ne va pas dans cette galère.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous appelez 0826-300-300. Il y a le foie gras aussi qui fait réagir. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de certaines municipalités, notamment écologistes, de bannir des réceptions le foie gras? Vous dites que c'est absurde pour l'instant, majoritairement, la question que l'on pose, mais il y a aussi d'autres derrière, il y a d'autres sujets quoi, hein, derrière ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'industrialisation, etc., les méthodes qui sont à revoir,
et le bien-être animal.
Vous pouvez réagir, et puis dernière question qu'on évoquera aussi tout à l'heure. Est-ce que la démocratie en France est en danger? 61% des Français l'estiment en danger dans une grande enquête publiée par le magazine Challenge. Tout le monde n'est pas d'accord autour de ça. Nous en parlerons avec le patron de Challenge qui sera avec nous et vous, évidemment, 0826-300-300. À tout de suite.
Restez avec nous, 8h58.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h06, merci d'être avec nous. Dans un instant, la suite des débats Elisabeth Lévy, Françoise de Gouas, et où en est la démocratie, Patrick?
Oui, avec cette question qui est en une de Challenge, là, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, on le voit bien. Il faut sauver la démocratie. Il y a 60% des Français qui estiment qu'elle est en danger. C'est une grande enquête ce matin dans Challenge. Pierre-Henri de Menton, le directeur de la rédaction, sera avec nous dans un instant. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. 0826-300-300, si vous voulez réagir. En attendant, c'est Renaud qui réagit. Alors, il y a ce sujet, évidemment, autour du PS. Il y a une bonne réflexion, là, sur Françoise de Gouin sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une bonne stratégie pour la gauche d'organiser une primaire, etc. Ben, Patrick Polo qui dit ça permettrait peut-être à Xavier Bertrand d'avoir une seconde chance.
En Patrick,
plus,
c'est sûr que c'est pas
il avait
Patrick
dit qu'il
Polo.
Était le seul à pouvoir battre Emmanuel Macron. J'aime bien. Alors qu'il y a Myriam, Ramirez qui dit bonjour Françoise, dommage que la majorité des gens soient de droite extrême. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon on peut tirer son épingle du jeu.
Vous pensez ça, vraiment? Moi, je pense ça. Je pense qu'en janvier, ça va décanter. Mélenchon, en 2016, il est à cet étiage en décembre. Hein. Il gagne lui-même dans la campagne.
Françoise, il n'a pas fait alliance avec des gens tout à fait infréquentables, avec les islamistes. Et ce que voient beaucoup de gens, y compris des gens de gauche sincères, là, j'essaye de m'abstraire de mes propres convictions. raison, si vous voulez, c'est qu'ils lui en veulent beaucoup de ça, parce qu'ils ont l'impression que pour avoir quelques électeurs de plus, pour grappiller, on lui a dit que les voix qui lui manquaient, il allait les prendre dans les banlieues. D'abord, il croit que dans les banlieues, on aime les islamistes. Je ne suis pas sûre que ce soit vrai pour tout le monde.
C'est pas aussi simple que ça, mais bon.
Mais il y a quand même quelque chose de ça. Il a vendu son âme, vraiment.
Je crois pas. Mais enfin, bon, en tout cas, de toute façon, c'est un tableau dur, parce que quand vous êtes la candidate du PS, la maire de Paris, je le redis et que j'apprécie, moi, beaucoup, et que vous avez ce matin Yannick Jadot et Fabien Roussel en chœur sur les matinales qui vous demandent d'abandonner votre campagne pour vous rallier à eux, c'est un échec absolument terrible. C'est un échec terrible pour Anne Hidalgo. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas bordé cette déclaration, vraiment.
Bah, elle est occupée.
Il faudrait déjà comprendre pourquoi c'est un échec, parce que, excusez-moi, la vraie question, c'est alors pourquoi Anne Hidalgo plafonne à 3% et bien, malgré votre amour pour elle, vous devriez peut-être entendre...
Non, mais je pense que c'est vraiment lié à la social-démocratie, moi, je pense vraiment...
Je crois que c'est lié à sa personne aussi.
Non, pas simplement.
Peut-être aussi.
Pas simplement. Vous auriez Bernard Cazeneuve, qui est très apprécié, ce serait pareil. Je pense qu'il y a quelque chose, mais il y a quelque chose.
Je crois pas,
si, il a été sondé. Il a été sondé à 5, 6%. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est abîmé dans le quinquennat de François Hollande. Vous savez, les Allemands ont mis des années avant de retrouver leur social-démocratie
après
Schröder. Voilà, et ben il y a un sale moment à passer parce que après les lois travail de Manuel Valls et de Hollande, voilà où on en est.
Ça avait commencé bien avant.
0826
303. C'est Renaud qui est avec nous.
Renaud, bonjour.
Bonjour Renaud.
Bonjour Sud Radio.
Renaud, donc il y avait à la fois, vous pouviez réagir sur le PS là en fait d'un mot peut-être, et puis en même temps sur le foie gras. Je crois que vous étiez en fait aussi interpellé par la question du jour que nous posions.
C'est ça. Moi, je vais faire simple au niveau d'Hidalgo. Voilà, vous l'avez dit le matin même, elle dit machin, le soir, elle dit autre chose. Honnêtement, moi, sans parler de ça, de ce que je sais, moi, d'Anne Hidalgo, parce que j'ai des amis, moi, qui vivent à Paris, et honnêtement, rien que par rapport à ce qu'ils me disent et le retour que j'ai sur sa gestion de Paris telle qu'ils la voient, la supporter pendant 5 ans en tant que présidente, c'était... Ce matin, vous avez eu
Valérie Rabault,
qui nous faisait comprendre à demi-mot, hein, parce que c'est comme ça que je l'ai compris. Une primaire, oui, mais alors tout le monde vote pour moi, comme ça, c'est moi la candidate à gauche. Honnêtement, clairement, non. Elle est en train de nous mettre en place, en fait, en nous faisant ça, vous savez, le système à l'américaine, un à gauche, un à droite, et démerdez-vous avec ça.
Vous l'avez entendu, Valérie Rabault, elle était un peu gênée aux entours. Évidemment, par ce qui se passe. Complètement, bien sûr. Parce qu'elle, en plus, elle vient des territoires, elle voit bien que ça n'imprime pas Anne Hidalgo dans les territoires.
Mais ça ne marche pas, moi, ça marche pas,
c'est dit. Bien sûr. Je pense qu'à gauche, ils auraient dû plutôt essayer Carole Delga pour avoir une représentante des territoires. Non, mais c'est vrai, c'était représentante des territoires. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bien sûr.
J'avais beaucoup, mais...
Puis honnêtement, juste pour terminer là-dessus, on a essayé le Parti Socialiste pendant plusieurs mois. On a essayé, les Français ont fait leur avis maintenant là-dessus, voilà. On a essayé à droite avec le RPR, puis ça a changé de nom, les Républicains, etc. On a vu ce que ça a donné, voilà, chacun a fait son avis là aussi. Il y a que les extrêmes qu'on n'a pas essayé et deux, trois autres partis. Il faut essayer cela.
Asselineau, c'est ça que vous voulez dire.
Le PRG.
Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Merci.
Par rapport au foie gras, vite, c'est juste.
Le foie gras. Non, mais ça nous intéresse parce que nous sommes quand même le 9 décembre, mon cher Renaud. Oui.
Moi, je pratique la politique du touche pas en mon assiette.
C'est bon ça.
C'est le ventre qui parle.
C'est le ventre, le cœur, et puis c'est surtout aussi les traditions, etc. Pendant les vacances, à Noël, etc., ça a toujours été foie gras, charcuterie, les grandes tablées, etc. Ceux qui veulent pas en manger, comme certains écolos, certains véganes, etc., qui veulent pas en manger, très bien, qui n'en mangent pas, qui nous foutent la paix. À partir du moment où on ne mange pas, qu'ils ne l'imposent pas aux autres, c'est pas parce qu'un petit nombre ne veut pas qu'il faut l'imposer à la majorité. C'est pareil, si vous voyez, en fait, tout se rejoint, le vaccin, le pass sanitaire, ce genre de choses-là, il y a un moment donné, en fait, le foie gras, tout ça.
C'est lié, en fait. Attention, on ne peut pas comparer le vaccin et le foie gras.
Non,
mais je comprends.
Quoique le foie gras, ça soigne peut-être.
Ah ben, le foie gras, ça doit soigner. Non, mais après, ce que disait Elisabeth Lévy aussi ce matin, c'est qu'il y a quand même aussi des conditions parfois d'élevage, des grands élevages industriels, et puis même des abus. On a du foie gras qui arrive à pas très cher, en fait, dans l'assiette, bien souvent. Il vient, on ne sait pas d'où.
De Hongrie,
Bulgarie, etc.
C'est de la merde. Voilà, le problème, c'est ça. Les trois quarts des produits qu'on nous vend dans les grandes surfaces, voilà.
Honnêtement,
faut faire attention.
Moi, je suis, vous savez...
On nous force à la consommation, etc. Effectivement, il faudrait qu'il y ait plus de contrôle.
Il faut surtout rendre hommage à tous nos éleveurs qui font énormément d'efforts justement pour faire autre chose que cette malbouffe.
Au final, alors qu'ils y sont pour rien.
Oui. Mais moi je suis du sud-ouest, Renaud, donc je défends quand même le foie gras, mais parce que j'ai été nourri au foie gras élevé artisanalement, exactement ce que disait Elisabeth, où en fait l'animal. Évidemment, c'est pas naturel. C'est pas naturel d'engraisser un foie, hein, vraiment. Mais l'animal est en liberté. C'est absolument pas ces grands élevages industriels qui sont épouvantables à tous les niveaux.
Merci, Renaud, de votre témoignage et de vos appels 0826. Oui, bonne journée, en fait, à vous. Je voulais qu'on vienne, en fait, d'un mot aussi, quand même, parce que c'est passé assez rapidement, cette histoire de démission d'Alain Griset, en fait, hier, condamné à 6 mois de prison pour déclaration incomplète ou mensongère.
Avec sursis.
Son patrimoine, ouais. Avec sursis. Non, mais bien sûr, c'est vrai. Avec sursis, 6 mois de prison avec sursis. Et puis, il fait appel. Alors, il n'est pas le premier élu. Hein. Dans le factuel, ce matin, on voit avec vous, Adeline Divoux, il n'est pas le premier élu à être évincé du gouvernement pour non-transparence dans ses déclarations. Hein.
Oui, cette histoire rappelle celle de l'éphémère secrétaire d'État au commerce extérieur, Thomas Thévenoud, en 2014, contraint de démissionner 9 jours seulement après avoir été nommé. Justement pour des démêlés fiscaux, l'ancien élu qui n'a pas déclaré ses revenus venu en 2012 et a rempli ses déclarations de 2009, 2010, 2011 et 2013 en dehors des délais légaux. Une phobie administrative, selon ses mots, qui l'a conduit à 1 an de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité, mais également un retrait définitif de la vie politique en 2017. Un an plus tôt, c'est l'affaire Cahuzac qui avait fait parler d'elle. Le ministre délégué au budget entre 2012 et 2013 est contraint de démissionner après des accusations de fraude fiscale. L'ex-élu détenait notamment des fonds non déclaré sur un compte en Suisse et à Singapour. Cahuzac a été mis en examen pour blanchiment d'argent et condamné à 2 ans ferme, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. En tout cas, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique veille au grain. En 2020, elle a reçu plus de 17 000 déclarations de patrimoine et d'intérêts de responsables public, c'est 220% de plus qu'en 2019.
Oui, la transparence de la vie, en fait, publique. Peut-être qu'on va trop loin, et peut-être que d'ailleurs ça nous amène au sujet, en fait, qu'on va aborder dans un instant. Il faut sauver la démocratie. D'ailleurs, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent se présenter en politique, aussi parce qu'il y a des risques. Oui, vous allez commenter ça dans un instant. Allez, vous restez sur Sud Radio. Dans un instant, justement, nous allons parler de cette enquête.
Avec Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction du magazine Challenge, à tout de suite, 9h16.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h19, on parle ce matin de l'avenir de la démocratie selon les Français. Pour en parler, Pierre-Henri de Menton est avec nous, directeur de la rédaction du magazine Challenge et de cette enquête, Patrick.
Oui, il faut sauver la démocratie. Enquête particulièrement intéressante, hein. Je crois que vous avez interrogé 10 000 Français. C'est une série de grandes enquêtes que vous menez dans Challenge. Qu'est-ce que disent les Français alors par rapport justement à la démocratie? Parce que la conclusion, c'est quand même 61% qui l'estiment en danger.
Voilà, alors on est le matin, donc on va faire les verres à moitié plein. C'est 80% des Français qui sont attachés au système démocratique. Ça veut quand même dire qu'il y en a 20% sur 5 qui ne l'est pas.
Ouais.
Et il y a le même nombre, à peu près à 2 points près, qui considèrent finalement que on sort aussi bien dans un régime autoritaire.
Ouais. Hein,
donc on a quand même un problème. Et quand on regarde, quand on gratte un petit peu, parce qu'on a posé énormément de questions, c'est des entretiens assez longs faits, donc avec plus de 10 000 Français, on en a une majorité, par exemple, qui considère que, certes, on a une démocratie, mais qu'elle fonctionne mal. Hein. 54% considèrent que la démocratie fonctionne mal. Les chiffres montent alors ensuite très haut sur, par exemple, le pouvoir excessif de Paris et des élites, coupé des réalités, 85%. et sur le fait qu'on ne se reconnaît pas, pourtant la gamme elle est large hein, des candidats, on ne se reconnaît pas dans les candidats. Ouais. 41% des Français ne s'y reconnaissent pas dans l'offre politique actuelle. Hein. Et puis on pourrait multiplier comme ça, on a pratiquement un tiers des Français qui considèrent que le vote est faussé.
Alors c'est ça, 48%.
Voilà, donc on est bah, en sens qu'ils considèrent que le vote... Alors, derrière ça, il y a la critique du mode de scrutin hein, qui est très importante. Vous le savez, il y a un certain nombre de partis, le Rassemblement National, mais pas seulement, le Modem aussi au sein de la majorité, qui réclament plus de proportionnel. Mmh. Alors, mais cette question-là, en fait, on leur demande ensuite comment améliorer la démocratie. Et en fait, ce qui revient, là c'est assez paradoxal, ce qui revient beaucoup, c'est le référendum. Hein. Vous vous rappelez, on a beaucoup parlé pendant les Gilets jaunes, là ça revient dans un certain nombre de programmes, aussi bien tout à fait à gauche, côté Mélenchon, que tout à fait à droite, Marine Le Pen. Et quand on regarde sur le centre, on va dire le cercle de la raison, le Modem, LREM, LR, eh bien, la mesure, selon les sympathisants de ces partis, la mesure qui serait la plus efficace, c'est de contrôler la véracité des informations dans les médias. Hein, donc, le contrôle des fake news. Donc, ça nous a un peu terrifiés, nous, comme journalistes, de se dire que c'est les partis qui se disent les plus démocrates pour qui c'est la priorité numéro un, c'est qu'il y ait un contrôle de la
véracité. Finalement, chacun veut de l'autoritarisme et du contrôle, quoi, finalement. Parce qu'il y a ces Français qui disent 1 sur 5, pas loin, hein, en fait, 1 sur 5, il faudrait quasiment aller vers un régime pas autoritaire.
Autoritaire. Vous savez que c'est un grand... si on a fait ça aussi, c'est qu'il y a aujourd'hui un grand sommet mondial sur la démocratie qu'organise Joe Biden. Hein, il y a 110 chefs d'État et de gouvernement qui vont y participer. Alors, c'est en présentiel, mais quand même. Et dans ces 110 chefs d'État et de gouvernement, il y en a beaucoup qui sont, on va dire, en zone grise. Hein. On ne sait pas très bien. Il y a des pays qui sont a priori démocratiques, comme l'Inde ou le Pakistan, voire la Russie, où il y a quand même des élections.
Des élections.
Il y a beaucoup de journalistes en prison, etc. Ouais. Donc, l'humeur générale, ça a tendance quand même à régresser.
Deux questions, réflexions de Elisabeth Lévy et Françoise Daboise.
Il faut faire très attention avec cette expression du cercle de la raison. Moi, à chaque fois, je sursaute parce que les représentants.
Non, j'ai mis des guillemets.
Il a mis des guillemets.
Non, mais c'est très important que vous les mettiez, les guillemets, parce que ça participe vraiment alors du déni, du ras-le-bol démocratique de la quasi-totalité des gens. En gros, il y aurait le cercle de la raison, en gros le macronisme, et tout le reste serait disqualifié. Ça, c'est pas possible. C'est insupportable,
en fait. Mais c'est pas ce qu'a dit...
J'insistais parce que c'était sur le paradoxe de ces partis qui se
vendent comme ça.
Qui se vendent comme ça, comme très rationnels, etc. Voilà. Et c'est les sympathisants de ces partis
qui font les
propositions qui me paraissent les moins démocratiques.
Deuxième point, voilà. Et deuxième point qui me paraît essentiel, la proportionnelle, le grand rendez-vous raté évidemment des institutions. Je pense que moi j'aime pas le Front National, mais je considère qu'il est anormal que quand on est finaliste, on n'ait que 5 députés. Et vous avez 100% raison de le signer.
C'est la proportionnelle. Question.
La question que je me pose Elisabeth dans le fond, Lévy. C'est celle de la définition de la démocratie, parce que c'est évidemment un système des institutions, le vote, etc. Mais c'est aussi un état d'esprit, la démocratie. Et pour moi, cet état d'esprit, il repose d'abord sur une chose, c'est la capacité au désaccord et au désaccord avec les gens dont on est le plus éloigné, c'est-à-dire tolérer ce qui nous semble tolérable, c'est-à-dire quand vous êtes un électeur socialiste, tolérer ceux de LR, c'est-à-dire des gens qui sont finalement pas très loin sur la question des valeurs, c'est pas très difficile. Or, moi, je me demande aujourd'hui, et là, mais tout le monde, si notre société est encore prête à cela, parce que si la politique doit civiliser les conflits, il faut que les gens acceptent l'altérité idéologique, l'altérité en termes de valeurs. Et c'est ça que
on est tout à fait d'accord. Et là, je vous balance encore un chiffre. Il m'a beaucoup frappé. C'est qu'on a 31% des Français qui considèrent que la violence est un mode d'expression. C'est-à-dire que comme le système démocratique fonctionne mal, comme le vote est faussé, en fait, il n'y a plus qu'une issue. c'est la violence.
Voilà, les avec l'exemple des gilets jaunes, il y a beaucoup de gens qui disent les gilets jaunes commencent à obtenir quand ils cassent l'arc de triomphe. C'est voilà. Le raccourci est, le raccourci est saisissant, mais
ça c'est terrible.
Vous faites les Lévis, ouais. C'est qu'effectivement, il y a des gens qui considèrent qu'il n'y a plus cette possibilité de dialoguer, et donc là, il y a un vrai déficit démocratique.
Démocratique,
pardon, ouais. Qui existe, puisque ça veut dire que la chaîne de courroie entre élus, les élites et la population ne fonctionne pas très bien, on va dire ça comme ça.
Oui, c'est vrai. Allez, on va poursuivre dans un instant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au 0826-300-300 ? Est-ce que vous estimez que la démocratie est en danger ? Que la violence est un... c'est assez terrible de le dire, mais est un recours, en fait, possible. C'est ce que certains disent, expriment, effectivement. Oui, compréhensible. Et les élections, votre participation aux élections ? Parce que là, il y a, en fait, des réflexions assez intéressantes. Même chose. Et est-ce que vous pensez que dans 20 ans, il y aura toujours la même démocratie en France? Il y a une réflexion d'André Comte-Sponville à cette occasion, justement, dans ce dossier. Vous pouvez nous appeler 0826-300-300.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h30, l'avenir de la démocratie selon les Français, est-ce que la démocratie est en danger ? Ce matin, pour en parler, Pierre-Henri de Menton, un directeur de la rédaction du magazine Challenge. Je voulais revenir sur un chiffre, plus d'un Français sur deux contre les actes violents visant les élus. On parle beaucoup d'agressivité dans le discours politique, dans l'espace public. On est assez étonné quand même qu'il y ait un Français sur deux, presque un Français sur deux, qui soit contre les violences, qui veut dire que finalement, certains trouvent que logique ou normal qu'on s'attaque aux élus.
C'est assez grave. C'est tout à fait. Ça donne une idée de du divorce qu'il y a entre les Français et leurs élus. Alors attention, parce qu'il y a d'autres batteries de questions sur est-ce que vous allez voter, quel vote vous allez. Et par exemple, les élus, les municipales sont très populaires.
C'est-à-dire que c'est vraiment un
enseignement qu'on peut tirer de ce quinquennat.
Au plus proche du terrain.
C'est que c'est les maires qui ont un rôle important dans la démocratie. Et c'est aussi un enseignement d'une erreur stratégique initiale d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir sous-estimé la puissance de ces fameux corps intermédiaires et en particulier des maires. Donc quand on dit les élus, la question, elle est certainement bien faite, parce qu'on a beaucoup travaillé avec Harris, mais je pense qu'on ne peut pas tous les mettre dans le même sac. Si vous dites un député, je pense que le chiffre, il n'est pas du tout pareil, surtout qu'il n'y a plus de cumul des mandats que celui du maire.
Ouais. Mais d'ailleurs, quand vous dites est-ce utile de participer, par exemple, vous donnez plusieurs possibilités aux élections. Bon, c'est d'abord les élections municipales qui arrivent.
Absolument,
à 86% devant l'élection présidentielle, et puis ensuite les autres arrivent. Et souvent, on dit le terrain est important, il faudrait redonner du pouvoir aux quartiers, etc. Ce qui arrive en dernier, c'est aux réunions publiques de quartier et aux assemblées de parents d'élèves. Quoi. Voilà. Comme quoi, finalement, on réclame en fait un certain nombre de choses.
C'est un peu le paradoxe, c'est que les Français, ils se méfient de la démocratie, ils considèrent qu'elle fonctionne mal, etc. Mais ils y sont extrêmement attachés, ils ne parlent que de politique. On est sans doute le pays au monde, je crois qu'il y avait des études là-dessus, avec l'Argentine et l'Italie, où on parle le plus de politique autour du gigot le dimanche. C'est absolument incroyable. Donc, les gens sont passionnés par ça, même s'ils ne vont pas toujours voter, ils sont passionnés. Ouais. Et alors, on leur a demandé on a fait une liste de pays en disant quel pays le plus démocratique du monde. Et bien, cocorico, figurez-vous que on n'est pas français pour rien. On considère qu'on est les meilleurs du monde devant les Suisses, où pourtant, il y a la votation, et on sait qu'il y a même des expressions des cantons où on a cette fameuse démocratie directe qui fait rêver beaucoup de Français, y compris des gilets jaunes ou anciens gilets jaunes.
Mais est-ce qu'on peut encore s'exprimer quand on parle de liberté d'expression, est-ce que les Français ont l'impression de pouvoir dire ce qu'ils pensent ?
Alors, c'est le problème, c'est que je pense qu'ils ont l'impression de pouvoir le dire, mais ils sont très peu à considérer que cette parole est relayée par leurs élus, etc. Donc c'est là où il y a ce problème
Ça coince.
Hein. Donc ils sont en fait une majorité à considérer qu'on ne prend pas en compte ce qu'ils disent. Hein. Et c'est pour ça que les présidents se font tous sortir les uns après les autres. Hein. Aussi, c'est qu'on considère que
le terrain n'atteint pas
ils n'ont pas pris en compte ce qu'ils attendaient qu'ils ont trahi leur parole, etc. Donc il y a toujours cette défiance qu'on voit vis-à-vis de ce pouvoir qui est très vertical, hein, quand même, en France. Voilà, alors on veut à la fois un homme fort, mais on s'en méfie, on dit « Oh, ça serait bien que les élus aient plus de...
Oui. »
Donc c'est, tout ça est un peu compliqué, ils sont un peu compliqués.
C'est un peu paradoxal.
Dans leur tête.
Oui, alors le titre en fait de votre dossier, et puis l'enquête, hein, c'est quand même que 61% des Français estiment que cette démocratie est en danger, et d'ailleurs il y a une réflexion de André Comte-Sponville, philosophe, hein, éditorialiste justement à Challenge, qui dit « Attendez, rien ne garantit que la démocratie sera encore là en France dans 20 ans, et même à l'échelle de la planète également. »
Voilà, alors à l'échelle de la planète, on l'a vu, hein, il y a quand même une régression là, depuis 5 ans environ, il y a une régression, on va voir, il y a un scrutin très intéressant et symbolique qui va avoir lieu au Chili, hein. On a vraiment deux candidats, c'est comme si on avait en face Mélenchon et Zemmour, hein, là-bas, avec toute la charge symbolique qu'il y a avec Pinochet
derrière,
toute cette histoire. Donc il y a des moments clés qui sont en train de se jouer. On a vu toute une partie de l'Europe qui a basculé dans ce qu'on appelle, les intellectuels appellent l'illibéralisme. C'est plus vraiment des démocraties, c'est pas encore des régimes autoritaires. Donc il y a effectivement, au niveau planétaire, on voit une régression. Et ce que dit André Comte-Sponville, c'est que aucun système n'est éternel. Effectivement, qui aurait imaginé, par exemple, l'Union soviétique, on pensait que c'était là pour des siècles, hein, et en fait, ça s'est effondré en 18 mois. Donc, tout peut... C'est des systèmes qui sont quand même extrêmement fragiles, qui peuvent basculer. Prenez par exemple la Chine, tout le monde était persuadé qu'avec l'enrichissement des Chinois. Là, en fait, les 20 ans de l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, qui a fondé vraiment la mondialisation, on considérait qu'en fait, la démocratie allait venir toute seule derrière. Parce que
le pays allait s'ouvrir, peut-être
quand on crée une classe moyenne, des gens plus éduqués, etc., on a une demande peut-être plus de liberté que quand on meurt de faim, etc., où il y a d'autres priorités. Et bien, pas du tout. Le régime, c'est en 20 ans complètement fermé, est devenu de plus en plus autoritaire.
C'est-à-dire, il s'est ouvert pour le commerce, quoi, bien sûr, et puis
les
activités libérales. Quoi,
c'est la preuve que le capitalisme peut extrêmement bien fonctionner sans la démocratie. Donc ça, c'est aussi un peu terrifiant, parce qu'on pensait juste l'inverse il y a 20 ans.
Et sans la démocratie, hein, qu'on se représente bien les choses, ça veut dire pas d'élection, ça veut dire plus d'élection.
Et vous avez quand même un membre du Parti communiste chinois dans chaque entreprise, hein, l'équivalent de nos délégués du personnel, ils font partie, c'est comme si on avait un délégué de LREM dans chaque entreprise, même les PME, qui va rapporter, qui va dire ce qu'il faut faire, etc.
Mais
donc c'est quand même...
L'une des faiblesses aussi de la démocratie, parfois, c'est qu'on ne débouche pas sur un parti quand même fort, ou un homme ou une femme assez forte en fait au pays, pour conduire en fait des réformes. Ça, c'est l'une des failles en fait de notre démocratie, non?
Moi, je pense qu'il y a des situations... On a posé beaucoup de questions autour de la crise. Est-ce que quand il y a une guerre, est-ce que quand il y a une crise sanitaire, est-ce que c'est pas là où il faut un homme fort? Alors là, les Français disent oui. L'histoire quand même prouve le contraire. Hein. Je vous rappelle que, par exemple, une grande démocratie comme la démocratie britannique, pendant la dernière guerre mondiale, elle a jamais été... Ça a été géré de façon démocratique. Même chose pour la France 14-18, c'était moins le 4 pour la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est la preuve que la démocratie, elle sait gérer les crises. Hein. Ouais. Elle est capable, et que peut-être que la présence de contre-pouvoir dans ces moments-là est justement très utile, parce que sinon il y a des tentations terribles. Effectivement, on peut tout fermer, on l'a vu, les débats au moment de la crise sanitaire, s'il n'y a plus de contre-pouvoir, on peut tout fermer, et c'est le gouvernement des experts, et si le Parlement n'a plus du tout ce mot à dire, et ni l'opposition...
D'où de la proportionnelle, qu'on évoquait en fait tout à l'heure, pour qu'il y ait d'autres
alors
forces.
Alors là, c'est un vaste débat, ça dure depuis. C'est vrai que l'absence de proportionnelle aussi garantit la stabilité du système, hein. On se rappelle, en gros, depuis... Alors, il y a eu des moments pour la 5e République où il y a eu la proportionnelle, parce que Mitterrand l'avait mise, mais en gros, le truc tient, parce qu'il y a ce système aussi, sauf que maintenant, il n'y a plus de partis. Il y en a beaucoup plus, et on voit que l'élection présidentielle, elle va se faire à quelques chouillas de points au premier tour. Ce qui n'est pas tout à fait comme avant, où on avait la droite, la gauche, chacun était dans ses chaussons, son rail, et il y avait un débat là-dessus. Et ça a volé en éclats. Un autre intellectuel parle dans notre dossier, Michel Vinocq, qui dit en fait ce qui met en danger La démocratie, c'est ce qu'il appelle l'hypercentre. Hein. C'est à force de trianguler, de prendre des ministres à gauche, à droite, de vouloir rassembler tout le monde. Et ben, en fait, il n'y a plus d'alternative, on a l'impression.
Ouais. Est-ce que sur l'incarnation, il y a une réflexion à se faire, de se dire que finalement, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des hommes politiques ? Regardez, en Ukraine, c'est un ancien comédien, Donald Trump. Enfin voilà, est-ce que Éric Zemmour, qui est un polémiste, qui monte, est-ce qu'on a encore envie de ces politiques ou on a envie de trouver une alternance ?
Alors, je pense que personnellement, je pense que notre chance, c'est qu'effectivement, dans ces noms politiques, on va dire, qui émergent, donc moi j'appelle ça quand même des populistes, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Hein. Il n'y a pas une personne, mais il pourrait y avoir une personnalité qui incarne à la fois le populisme de gauche et de droite. C'est ce qui manque. Pour l'arrivée au pouvoir de ces gens-là, comme il y a eu dans différents pays que vous avez cités. Ça a été le cas en Italie, avec un personnage qui s'appelle Beppe Grillo. Il a ramassé un vote extrêmement contestataire pour mettre à bas le système. Bon, le truc s'est ensuite effondré. Résultat, il se retrouve maintenant avec un Premier ministre qui est le super technocrate. Donc c'est juste l'inverse de ce qui avait été lancé.
Oui, et vous êtes allé voir aussi les jeunes, parce que évidemment c'est l'avenir aussi du pays. Donc il y a une enquête, et ils ont été sondés pour savoir ce qu'ils pensaient eux-mêmes aussi de la démocratie. Est-ce que ça fonctionne bien ? Pas vraiment hein, aux yeux des jeunes.
Oui, ils sont comme les Français, mais ils sont relativement en fait l'enquête
conformistes.
Ils sont relativement conformistes. Hein. Ouais. C'est pas par exemple quand on leur dit est-ce que les élections sont faussés, non. Hein, ils sont moins nombreux que l'ensemble des Français à le penser. Ils aiment la politique. Ouais. Vous verrez, on a fait un reportage très intéressant dans un collectif de jeunes de gauche, c'est d'actualité, qui réclame depuis des semaines et des semaines une primaire à gauche, disant mais...
Primaire ouverte, hein, de
pourquoi,
toute la gauche.
Pourquoi on n'y a pas le droit ? Ça a pas mal fonctionné chez LR, ça a pas mal fonctionné chez les écolos, et pourquoi il n'y a pas de primaire à gauche ? Donc vous voyez, il y a une vraie réflexion, et je pense que il y a un esprit civique et politique qui est extrêmement important dans la jeunesse du pays, donc c'est vraiment pour moi un motif d'espoir, et effectivement c'est cette jeunesse qui va sauver la démocratie.
Merci beaucoup,
Pierre-Henri de Menton. Donc, évidemment, pour ce dossier autour de la démocratie, il y a beaucoup de choses, par exemple aussi sur les médias. Hein. Par exemple, l'information à l'ère du soupçon, plusieurs portes d'entrée, si je puis dire, pour ce grand dossier dans Challenge. C'était intéressant, évidemment, de l'ouvrir et de feuilleter un petit peu avec vous. Dans un instant, la France à vos côtés, Cécile.
Oui, la France à vos côtés. On va parler du don du sang. Vous savez que
on manque de sang.
On manque de sang et pour plein d'opérations. Enfin voilà, donc on va en parler dans un instant avec le directeur du collectif de l'établissement français du sang et Stéphanie Fugain, présidente de l'association Laurette Fugain, qui lutte, je le rappelle, contre la leucémie. Restez avec nous, 9h41.